Bonjour à tous et bienvenue sur Neptune FM en ce dimanche 23 janvier, une nouvelle année qui commence. Le premier mois se termine bientôt, mais la tradition veut qu'on se souhaite la bonne année tout le mois de janvier. La deuxième tradition, c'est celle des vœux du maire à la population. Nous recevons donc pour l'occasion Bruno Nourry, le maire de Lisieux et conseiller départemental. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Carole Charvaux également, première adjointe et également conseillère départementale. Bonjour.
Bonjour.
Alors malheureusement, en raison des conditions sanitaires, il n'y a pas eu de vœux justement en public à la population. Alors du coup, on va le faire ici dans cette émission. On fera un tour d'horizon un peu des projets municipaux en cours, à venir. Un point sur quelques projets terminés également. Plusieurs grands thèmes qui seront donc évoqués. Les finances de la commune, le social, santé, immobilier, environnement, transport, sport, jeunesse, culture, patrimoine. Il y a plein de choses. Et on va commencer avec un peu l'aménagement du territoire, les grands projets urbanisme. Depuis environ 2 ans, le bâtiment de la mairie est en pleine rénovation, ce qui permettra un peu de mieux regrouper les services et puis d'avoir un bâtiment neuf, surtout. Le chantier devait donc être fini l'été dernier, ça a été décalé à l'automne et finalement, eh bien, c'est toujours pas fini. Est-ce que vous savez quand est-ce que vous allez avoir les clés?
Oui, ça va finir par se finir, bien sûr. Non, mais quand on a des projets qui sont assez conséquents, parce qu'il y a eu toute une partie de rénovation, une partie extension, on avait difficulté à trouver des entreprises et puis il y a eu quelques retards liés essentiellement à la période de Covid, hein, sur les différents confinements. Maintenant, on arrive au bout, même si ça donne l'impression de ne pas avancer sur l'extérieur, ça a bien avancé en intérieur.
C'est vrai qu'on ne voit pas l'intérieur.
Non, on ne voit pas l'intérieur. Voilà, on s'était fixé un objectif fin mars pour finir. Après, il faudra qu'on organise le déménagement courant avril. Ça reste à déterminer, mais c'est ça l'objectif. Enfin, on arrive en fin de chantier.
Donc, ouais. Pour l'été, normalement,
c'est ça.
Voilà, ça devrait être en place.
Ah ben oui, bien avant. Bien avant.
Ouais. On devrait normalement voter dedans, je pense. Hein?
Ah oui, ouais. Oui, pour les élections.
Ouais, on va essayer. Si ce n'est pas le cas, ben on se reportera sur le casino, mais on fait tout pour. Donc voilà, on arrive quand même au bout du chantier. Donc c'est plutôt heureux. Je voudrais rappeler les objectifs. Hein, c'était de regrouper l'ensemble des services administratifs. Hein. La mairie telle qu'elle était faite en 1968. 8 ou 69, enfin bref, les murs avaient 50 ans, l'électricité avait l'âge des murs, il n'y avait pas d'accessibilité à la salle des mariages, pas d'ascenseur.
Il y avait moins de services aussi peut-être, donc du coup, c'est pour ça s'est un peu agrandi.
C'était un peu agrandi, mais après, se retrouver à 3 personnes par bureau, etc., enfin, ça devenait compliqué, donc tout le monde était bien d'accord qu'il fallait la rénover, voilà, ça prend forcément du temps. Aujourd'hui, c'est quasi chose faite. Dans cette même ligne, on avait, l'année dernière, on a pu intégrer le nouveau centre technique municipal. Là aussi, de regrouper les équipes, d'avoir un outil à la hauteur des attentes du territoire, hein, pour les services techniques, qui nous permettent aussi de regrouper un certain nombre de stocks et de services qu'on avait à droite, à gauche, pour voilà, permettre d'envisager autre chose ailleurs. Par exemple, on a beaucoup de choses stockées dans l'ancienne usine, etc. Donc voilà, c'est une bonne chose. Puis après, je pense qu'on parlera du pôle solidarité.
Ouais, il y a un autre regroupement, ouais, qui se fera.
Qui s'inscrivent un peu dans cette même ligne de structuration des services, parce qu'à chaque fois, au gré des évolutions, on bouge les services de place, donc ça devient compliqué, ce jeu de chaises musicales. Il y a un moment donné, il faut l'arrêter, et puis il faut faire les choses, les faire dans le bon ordre, regrouper de manière cohérente, et donc c'est ce qu'on fait.
Très bien. Le centre technique municipal, donc ça fait à peu près un an, un petit peu moins qu'il est en service.
On a dû y rentrer vers le 15 février l'année dernière, donc c'est ça fait à peu près un an.
Ça se passe bien, ça se déroule bien,
oui.
Tout le monde est content.
Ouais, oui, les agences,
il y a des petits aménagements complémentaires, comme il y avait un préau pour les véhicules qui est en cours, il reste un peu d'aménagement extérieur à faire, et puis il y a le hangar de bus qui est en train de se réaliser devant, là aussi, dans le souci de pouvoir déménager l'ancienne usine. Donc c'est en bonne voie, et puis voilà, c'est un bel équipement, ça paraît grand de l'extérieur. En même temps, ben, on regroupe quand même pas mal de services, hein, entre, je ne vais pas tous les citer, mais la voirie, services bâtiments, entre la maçonnerie, la menuiserie, l'électricité, les services espaces verts, il y a la mécanique.
Oui, il n'y a pas juste des bureaux, forcément.
Ouais, et puis, plus les bureaux, etc. Mmh.
En face. Les hangars pour les bus, déjà, ça doit prendre de la place aussi.
Oui, ça c'est en face, mais déjà, ouais, c'est... Et puis, on ne pouvait pas mégoter, c'est-à-dire faire un équipement qui soit pour les 10 ans qui viennent. Ou... Donc, il faut vraiment s'inscrire dans la durée et puis structurer, encore une fois, le territoire, donc avoir un équipement qui permette de répondre... ad vitam aeternam sur...
À tout ce qui peut potentiellement arriver plus
ouais,
tard.
C'est ça, ouais. Voilà, c'est ça. C'est pas non plus super grand, mais je pense qu'on l'a bien configuré.
À taille de l'île-gueux, quoi.
Ouais.
Je pense que quand le Covid sera fini, on invitera dans une porte ouverte les personnes illaises à visiter ce superbe bâtiment pour voir dans quelles conditions les services techniques travaillent. Et je pense que c'est une bonne chose.
Ouais, c'est
de voir justement à quoi ça a servi, à quoi ça sert.
Ouais.
C'est ça, parce que là, on n'a pas pu faire
d'inauguration.
Donc, c'est un peu gênant. Et donc, je pense que c'est bien que la population puisse se rendre compte de ce que c'est, parce que la commune intervient dans des champs très divers. Et donc, c'est important d'avoir l'outil de travail adéquat pour se faire. Quoi. Encore une fois, il faut arrêter de bricoler.
Je pense qu'il est pas mal, l'outil de travail.
Oui, tout à fait.
Je reviens vite fait sur la rénovation de la mairie. Côté budget, est-ce que ça a un peu bougé, dépassé, un peu plus, un peu moins? On va faire assez rapide, parce qu'il y a beaucoup de thèmes à avoir.
Toujours sur un chantier, c'est-à-dire que quand vous avez votre avant-projet, vous validez un montant prévisionnel et c'est pas toujours ça qui se passe quand on a l'ouverture des plis, donc on a relancé plusieurs lots, etc. Il y a des lots forcément qu'on dérapé, mais j'ai envie de dire sur tout projet c'est comme ça, mais on a quand même quelques surprises. Ceci dit, la mairie c'est un projet à 2,5 millions hors taxe, hein. Avec 900 000 euros de subvention, hein, c'est des fonds de l'État pour la partie dotation et équipement des territoires ruraux pour 300 000. On avait territoire à énergie positive pour la croissance verte, là c'était sur la partie rénovation de la partie ancienne, on a 300 000 euros aussi. Et on avait fléché 300 000 euros du contrat... régional, du contrat de territoire région. Voilà, on arrive à 36% de subvention. Ce qui est pas mal, parce que dans le cas de rénovation de mairie, généralement, c'est plutôt aux alentours de zéro. Quoi. voilà, après, bien sûr, le budget sera réajusté, parce que voilà, il y a quelques avenants, des choses qui n'ont pas été forcément pensées initialement sur un projet comme ça. Ça fait partie d'une certaine normalité, hein. Faut pas s'en offusquer. C'est facile de brandir. Ouais, ça a dérapé. Oui, ben ça, c'était pas prévu au départ, il faut le mettre.
Dans toute construction, etc. En général, toujours des surprises.
On le sait dès le départ, enfin, faut pas se raconter d'histoire.
Alors, on a parlé justement des bus qui étaient donc stockés à l'ancienne usine de l'ASPEC, qui sont donc maintenant au centre technique municipal. Et alors, cette ancienne usine? Est-ce qu'il y a un projet prévu? Qu'est-ce que ça va devenir?
Oui, bien sûr. Nous, on s'est engagé dans notre programme municipal à réhabiliter ce bâtiment. Donc, ce n'est pas une surprise. La première des choses, c'était de pouvoir disposer du lieu. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont stockées. Il y a les bus qui y sont. Donc, on l'évoquait tout à l'heure, on fait en gare à bus. Il y a aussi la fête des fleurs.
Ah oui, il faut y penser.
Ben, bien sûr. Et donc, le hangar à bus qu'on est en train de faire en zone artisanale permettra d'implanter les chars de la fête des fleurs aussi. Bon, il y aura des besoins un peu complémentaires, mais voilà, aujourd'hui, on peut envisager cette restauration, enfin restructuration. Nous, on avait imaginé plutôt au rez-de-chaussée et puis à déborder sur l'espace de l'Encan, là, à côté, la petite place qui est à côté, plutôt y mettre des commerces. Alors, d'une part, il y a le bâtiment plus loin, là, qui est un petit peu éventré, qui sera un bâtiment qui finira par être écroulé. Donc, c'est bien de replacer les entreprises commerciales dans le bâtiment de la Sphère, en rajouter d'autres. Et puis, à l'étage, faire des différents espaces, plutôt une salle multifonction, peut-être des salles connexes, etc., pour notamment retirer le chapiteau de la citadelle. Alors après, c'est un
projet pour l'instant.
Ouais, c'est plus qu'un projet. c'est un projet qui va coûter cher, hein, il faut le dire aussi.
C'est un grand bâtiment.
Ouais, ouais, maintenant, ce qu'on soit... on attend d'avoir suffisamment de latitude sur le budget principal pour le faire, et dans 10 ans, ce ne sera pas fait. Hein, soit on procède différemment. Donc là, l'idée, c'est plutôt de créer un budget annexe, hein, de pouvoir y intégrer les travaux, la globalité des travaux, mais que la partie dédiée au commerce... en fait, s'autofinance par le biais d'un emprunt et puis avec les loyers des commerces pour payer le remboursement du capital de l'emprunt.
Ce serait plutôt des commerces...
Ça peut aller. Il n'y a pas d'idée préconçue.
À long terme, plus des genres de marchés couverts avec des stands un peu ouverts. Pour l'instant, c'est un projet.
Voilà, c'est un projet et il y a un groupe de travail. Donc, si on dit... on ne va pas décider pour eux.
Non, il n'y a pas d'idée préconçue sur quel commerce, etc. Mais en termes de financement, en fait, les loyers des commerces vont payer le remboursement du capital de l'emprunt sur cette partie-là à très long terme. Ça peut être 30, 40 ans... voilà, on sait qu'à l'arrivée sur cette partie-là sera une opération blanche. Et la partie de l'étage, qui va servir plutôt l'ensemble de la population, mais là aussi il y aura un peu de location, etc. Et ça, c'est un équipement de la commune, donc le budget principal ira subventionner les travaux qui sont faits. Bon, après, il y aura un peu de subvention. Voilà comment on va articuler ce financement. Et du coup, on peut y aller. Alors, on a missionné une assistance à maîtrise d'ouvrage, hein, pour le moment, qui est la SPL, donc la Société publique locale au niveau de la Vendée, sur de l'ingénierie, nous accompagne sur pas mal de projets. Donc aujourd'hui, on est sur la définition du besoin, plus précise, avec un groupe de travail. On est aussi sur des diagnostics complémentaires, sur la structure, etc., etc. Mais bon, on avance sur le...
La cheminée, c'est peut-être un détail, mais elle va rester ou pas ?
On va la conserver, oui, bien sûr. Ouais. Ouais, je pense que c'est important, elle fait partie du paysage, même si elle avait été écrêtée
il y a une vingtaine d'années,
parce qu'elle penchait. Mais bon, je pense que c'est important de la conserver. C'est aussi le patrimoine industriel de l'île qui raconte une époque. Donc c'est important de le garder. Ouais. On avait pris un peu de retard pour lancer la démarche à cause de... de la pandémie, hein, première année de mandat, c'est la pandémie qui nous a pas mal accaparé, mais sitôt après, nous on avait dit qu'on lancerait les études aussitôt, c'est finalement ce qu'on a fait, quoi, avec un peu de retard lié à ça, mais c'est ce qu'on fait.
Alors dans ce même quartier des Unines, il y a aussi toute l'ancienne caserne des pompiers, le bâtiment, le grand bâtiment qui est en face, la place du champ de foire, tout ça, est-ce qu'il y a un programme là qui va être de rénovation?
C'est lié, parce qu'en fait il y a deux volets dans l'accompagnement de la SPL, la partie SPM et plus globalement sur le quartier. Donc là,
tout ça c'est en cours. Hein.
Ouais, c'est
un gros dossier.
Je ne veux pas dire il va y avoir ci, il va y avoir ça, c'est encore un peu prématuré, mais bien sûr on y travaille.
On va rester un peu sur un peu l'aménagement du territoire, les projets routiers, notamment avec le fameux contournement de Port-Joinville.
Oui.
Où en est le projet alors?
Non, mais
ça avance petit à petit.
Ouais, sur un premier tronçon entre la rue de Kerper-Borny et puis le rond-point de Super-U, où on a engagé une maîtrise d'œuvre qui va nous accompagner sur le dessin pour pouvoir lancer les appels d'offres derrière pour sa réalisation. Donc, les études auront lieu cette année. Après, les travaux, ça dépendra des arbitrages budgétaires. Mais bon, voilà, ça, on commence à enclencher les choses. on voit que c'est un peu bougé dans l'ancienne maison de F, on a refait le mur, etc. Mais ouais,
c'est en cours, cours quand même.
C'est en cours, oui, ça, sauf ça que, arrive.
Enfin là, ça arrive, quoi. Ça arrive bientôt, en 2022, 2023, quoi. Depuis 40 ans, moi, je me rappelle, hein, quand j'étais petite, on en parlait déjà. Donc, on a acquis les terrains qu'il fallait, etc. C'est une belle opération qui va prendre, enfin, qui est en cours, quoi, ouais. Qui va prendre fin dans notre mandat, je pense.
Ouais, sur ce tronçon-là.
Voilà, donc je trouve que c'est une belle avancée. Et puis, ça va décanter certains terrains. Enfin, c'est vraiment important, ouais. Je pense.
Il y a un autre gros projet, c'est tout l'aménagement autour de la gare maritime. Alors là aussi, il y a ouais. pas mal de projets, notamment pour la chaîne du froid avec oui. Yeux Continent. Ça, c'est peut-être plus le département qui va s'en occuper. Et puis, les cuves d'hydrocarbures.
Oui.
Il était prévu à un moment de les enfouir.
Oui.
C'est toujours, ce projet est toujours en cours.
On se fait toujours accompagner là sur, pareil, de déterminer le champ des possibles, parce que c'est techniquement très complexe, hein, avec un certain nombre de dangers, avec des normes, avec... voilà, mais on y travaille toujours. Voilà, il y a différents scénarios possibles. Bon, pour le moment, on est toujours en investigation complémentaire, parce que là, c'est un peu un fusil à un coup, hein, faut pas se louper. Donc, vaut mieux prendre un peu de temps et bien réfléchir à ce qu'on va faire, en sachant que, encore une fois, c'est pas si simple, mais on espère bien arriver au bout, parce que bon, l'emprise du dépôt, c'est à peu près 3000 m² sur le port. Voilà, il y a besoin d'espace. Et donc,
oui, le but, c'est de faire quoi au final? C'est juste que ça ne soit plus là, ou si pour faire un parking ou un aménagement?
Bah, y aura sûrement des besoins de parking, mais aussi de rendre des espaces à la zone portuaire. Ouais, aussi. Il y a un besoin. Chaque mètre carré est compté, hein, sur,
la
zone portuaire. Ouais.
On remonte un petit peu plus loin au parking, donc sur la rue Neptune.
Ouais.
Là aussi, il y a pas mal d'aménagements de prévus. Et cette ouais. fameuse maison avec les coquillages, qui fait tant parler.
Oui, alors, y a plusieurs choses. La rue Neptune, je vais faire un peu l'histoire, c'est important pour comprendre.
Rapide quand même.
Oui, assez rapide. La rue Neptune, elle a dû être percée, je dirais à peu près en 1980, enfin il y a 40 ans. Elle n'existait pas auparavant, donc ça nécessitait que les municipalités d'alors achètent, préemptent les terrains. Et il y avait pu avoir une première zone artisanale, commerciale, autour de la station-service, là. Et puis, on a continué de préempter là où il y a le parking. Ça n'a pas été toujours très simple, hein, d'avoir une emprise suffisante. On parle de la maison coquillage. Avant, il y avait la maison de Louis Michaud, là, pareil, qui s'insurgeait sur le fait qu'on allait écrouler, etc. En fait, pourquoi la commune a préempté tout ces espaces-là, c'était pour deux choses. Un, pouvoir permettre une extension de la zone artisanale maritime, c'était un des objectifs, et deux, pouvoir y mettre un parking. Alors, pour ce faire, cette zone-là a été classée en zone artisanale maritime, l'intégralité, pour permettre cette extension de zone artisanale maritime, tout en se disant, il faut quand même le parking. Alors, il y a plusieurs choses. C'est pour ça qu'on avait préempté, il y a une dizaine d'années, la maison coquillage. C'était surtout le terrain qui nous intéressait. On ne va pas faire la guerre avec ça. Hein. Donc, la maison coquillage, on ne va pas l'écrouler. On va la laisser. Par contre, elle a deux ailes à l'arrière, celle-ci. On va les écrouler. On va garder la partie devant, hein, celle où certaines personnes sont attachés, donc on ne va pas l'écrouler.
À l'arrière, il n'y a pas de coquillage.
Non, il n'y a pas de coquillage. Ben sur la façade, il n'y en a plus trop non plus. Je vous invite à aller voir. Et il y a d'autres bâtiments qu'on doit écrouler sur la zone, notamment un en face de la station-service, un bâtiment en long. Et on va avoir l'implantation de la conserverie qui va se mettre ici, donc qui a été rachetée par la Sablaise. Et nous, on va en profiter pour aménager l'intégralité du parking. Hein, qui vont dire, la conserverie va se mettre sur le parking. Non, le parking va être aménagé différemment. Ce faisant, on va gagner, je crois, une quinzaine de places de parking, donc c'est pas deux, trois. Après, ce qui est important, c'est de savoir comment on va gérer ce parking pour pas qu'on ait de véhicules
qui reste là tampon. Plusieurs mois.
Ouais. Tampon, ouais.
Il restera gratuit parce que ça, c'est notre volonté, hein, de plus avoir de parking payant, mais néanmoins, il faut le gérer pour avoir des durées qui soient acceptables avec les usages, mais notamment pour la gare, quoi.
Est-ce que tout le côté donc trottoir de la gare jusqu'à ce parking va être aussi un peu réaménagé?
Oui.
Ça rétrécit un peu, il y a un peu des trous, il y a des fauteuil roulant notamment ou avec plusieurs valises. C'est...
Ouais. Donc, là aussi, on a un bureau d'études pour étudier tout ce cheminement. Alors, je déborde un peu sur la chaîne du froid que tu évoquais. Où il y avait différents scénarios possibles. Bon, nous, on en préconise un qui est actuellement en train d'être étudié. Mais là aussi, pour faire la liaison avec la gare maritime, nous avons besoin de, d'anticiper un petit peu. Mais alors, il y a des choses qui vont pouvoir se faire assez vite. Je pense que l'hangar de dépotage sous froid, on préconise plutôt de le mettre à la place de la messagerie. Et la messagerie, plutôt mettre à l'entrée sur le parking et d'étendre le parking vers les cuves de carburant. Là, pareil, on ne perdra pas de place de parking. Mais ce faisant, si d'aventure c'est ça qui se réalisait, on a besoin d'anticiper pour gérer effectivement tous les cheminements, les circulations. Donc voilà, c'est à l'étude. Et puis il y aura besoin de validation en conseil portuaire notamment.
Bon, là aussi, c'est un gros projet. On a parlé.
Ouais, c'est pareil.
Ouais, on a parlé un petit peu tout à l'heure du centre technique municipal qui est donc à la zone artisanale de la Marèche. Ouais. Est-ce que dans cette zone artisanale, il y a possibilité d'agrandir un peu, d'avoir des nouveaux hangars?
Oui.
C'est en cours aussi.
Oui. Là, pareil, on avait besoin d'avoir tous les terrains. Donc, ça, c'est chose faite. Besoin de faire le centre technique municipal. Et puis, pour cette extension de zone artisanale, on a fait un merlon autour, donc c'est pas neutre, un bassin d'orage sur le chemin de Kerbabu, et donc maintenant on peut passer à la réalisation, le permis d'aménager avait été octroyé, et donc les travaux vont démarrer là sous peu, on a retenu les offres, donc ça va aller vite. Là aussi ça a pris un peu de retard par rapport au Covid. On va avoir pour un gros 6 mois de travaux. Donc à l'automne, on aura ces espaces supplémentaires. Bon, on a déjà.
Ça sera pourquoi? Pour des artisans ou...
Ouais, d'accord. Ouais, essentiellement.
Il y a déjà une liste d'attente, j'imagine.
Oui, des demandes et on va être vite plein.
Bah oui.
Ouais. Ouais.
Donc, avant de passer au volet patrimoine, on va faire un dernier mot sur un peu tout l'aménagement du territoire avec le déploiement de la fibre aussi. Bon, alors là, c'est plus aussi le département et Vendée Numérique.
Ouais, oui.
Est-ce qu'on a à peu près... on avait une date, 2022-2023, sur l'île-Dieu. Est-ce que les délais, vous savez si...
On avait une date, fin 2023. Donc, pour le moment, ça tient. Alors, il y a deux volets dans la fibre. Il y a d'une part le déploiement où la commune participe à hauteur d'un peu plus de 900 000 euros. Alors on l'a réparti sur 5 exercices, ça fait une somme. Mais ces 900 000 euros représentent que 14% du budget global. Donc c'est un gros chantier, hein, parce que déployer la fibre, c'est on rebâtit tout un réseau, comme si c'était, c'est comme si on refaisait tout le réseau électrique.
Il faut aller dans chaque maison.
Ouais, c'est ça, ouais. Donc après, pour pas qu'il y ait de retard, surtout, parce qu'il y aura des parties aériennes de la fibre sur des poteaux existants, il est fondamental que cette fibre, pour la pose, on ne soit pas gêné par des arbres, pas des haies. Donc j'appelle chacun à une certaine vigilance de voilà, bien tailler les arbres autour de ces fils, parce que sinon la fibre ne pourra pas se déployer. Quoi. Donc voilà, c'est important. On écrira au propriétaire chaque fois qu'on aura des problèmes. Mais voilà, donc ça suit son cours. Et puis le deuxième volet, c'est que le département avec le CIDEV ont accordé des enveloppes supplémentaires sur l'enfouissement de réseau. Donc il y a un certain nombre de lignes qui vont être enfouies. Et nous, je crois qu'on participe pour, que je ne dise pas de bêtises, à peu près 30%. Donc,
lignes de fibre optique voilà, ou, en plus, ou en plus le reste des lignes qui seront...
Le reste des lignes, alors on ne va pas tout enfouir parce que là, ça,
c'est trop
beaucoup, mais il y a un certain nombre de voies qui vont être enfouies. Donc nous, on participe, je disais, à peu près pour 30%, peut-être un peu moins. Mais ça coûtera quand même 1 million d'euros à la commune. Donc voilà, plus enfouissement, là, c'est 2 millions d'euros à sortir. C'est pas rien, mais c'est important, d'une part pour les usages numériques et d'autre part pour l'esthétisme de l'île.
Oui, aussi, ouais, forcément.
C'est un gros budget pour la commune, mais il faut dire aussi que c'est un gros budget pour le département qui fait ça dans toutes les communes
de Vendée. Oui, il n'y a pas qu'à Lisieux, oui, bien sûr.
Et c'est un véritable choix politique de la Vendée d'aller vers cette fibre pour tous les Vendéens, où qu'ils soient. Ce n'est pas le cas de tous les départements, hein, je peux vous le dire.
On va passer maintenant au volet un peu donc, patrimoine, avec donc, tout d'abord le grand phare. Donc, on a vu qu'il y avait un projet avec le loto du patrimoine, notamment, pour une réhabilitation un peu du grand phare, avec une future maison de la nature aussi.
Oui, on avait déjà réfléchi sur le mandat précédent à faire, je ne sais pas s'il faut appeler ça maison de la nature, mais pouvoir regrouper les associations qui œuvrent pour...
Pour l'environnement.
Pour l'environnement, ouais. C'est ça.
La EPO, Odysseyeu, Yeux Demain, tout ça sera regroupé là-bas.
Ouais.
Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de faire voir aux touristes et même aux îlets, hein, tous les visages de l'île. Donc ça peut être aussi un jardin, ça sera un jardin qui sera devant le grand phare, avec tous les, par exemple, un petit marais en miniature.
Les plantes un peu qu'on retrouve sur l'île, quoi, un peu la flore de l'île.
Donc ça, c'est le petit jardin, mais il y a aussi une maison qui sera un centre d'interprétation donc de la nature, mais aussi un centre d'interprétation de tout ce qui est architecte patrimoine. Donc ça sera une deuxième maison. La troisième, ça sera plutôt un gîte qui pourra accueillir les chercheurs. Parce qu'on a plein de chercheurs, en fait, qui viennent sur l'île, on ne s'en rend pas compte.
Ils trouvent au moins
Oui, oui.
Voilà.
Oui.
Donc, tout ce qui est archéologie, tout ça, on a plein de choses à faire découvrir.
Oui, nous servira un peu aussi d'hôtellerie de passage.
Voilà. Et puis, donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Exposition, une exposition permanente. Voilà. Ouais.
Et donc ce projet avec le loto du patrimoine, c'est de faire quoi concrètement sur le grand phare?
En fait, on avait fait cette première étude dans le mandat précédent, et puis bon, voilà, c'était dans les tuyaux sur le grand phare, parce que la DIRM, donc la direction interrégionale des... maritime. bref, les phares et balises n'ont plus l'usage des bâtiments annexes, mais ce qui les intéresse, c'est le fût du phare et puis le phare lui-même. Donc on a eu des discussions pour qu'il soit rétrocédé. Donc là, on a des discussions avec France Domaine pour se faire. Et donc on avait ce projet, parce que la DIRM ne voulait pas forcément que ce soit n'importe quel projet qui se passe sur le site, et puis on l'entend bien, donc quelque chose orienté autour de la nature et du patrimoine, c'était plutôt bien vu. Et, Et en fait, voilà, on a été contacté par la Fondation du patrimoine, notamment Patrick Ney, qui est l'ancien maire de Saint-Gilles, pour faire partie du loto du patrimoine. Assez vite, on a acheté notre dévolu sur ce site, parce qu'il va falloir qu'on trouve des subventions, ça ne va pas se faire tout seul. Et voilà, c'était plutôt intéressant, parce que ça change... des châteaux, etc. Et donc là, à faire, c'est plutôt...
tout insolite, quoi.
Ouais, c'est ça. Et du coup, on a réussi à passer l'échelon vendéen, on a passé l'échelon régional, donc maintenant, on est au niveau national. Bon, voilà, on espère être retenu, parce que ça aidera beaucoup à financer le projet.
Il y a quand même une subvention de 500 000 euros à la clé.
C'est ça.
Voilà,
ah oui,
donc
c'est
Monsieur Stéphane Bern, monsieur et madame Macron, qui décide en fait, bon, peut-être avec d'autres experts,
oui,
hein, mais en tout cas, ils font partie
c'est sous l'initiative, ouais.
Voilà,
de Stéphane Bern.
Ce groupe de sélection des... Alors, j'espère que... Faudrait qu'ils nous entendent.
Le plaisir d'accueillir Stéphane Bern l'année dernière sur autre chose.
Il était venu au vieux château pour un tournage,
pour le tournage sur Secret d'Histoire. Concernant Jeanne de Belleville, donc on avait pu s'entretenir un petit peu. J'espère qu'on lui aura laissé un beau souvenir.
Voilà, c'est ce qu'il faut se dire.
Ouais.
Pour rester dans le patrimoine, il y a aussi donc cette estacade à Port-Joinville qui a été déconstruite. Alors là, c'est un projet du département aussi.
Oui.
Mais alors, la grande question que tout le monde se pose, c'est il va y avoir quelque chose à la place. Est-ce que ça va être refait? Est-ce que il y a beaucoup de questions.
On souhaite pas laisser les choses en l'état, bien sûr. Non, mais il fallait la déconstruire. C'était déjà un vieux projet. J'ai envie de dire qu'a enfin vu le jour, même si dès qu'on touchait un truc, tout le monde s'affole. Maintenant, pour la reconstruction, il y a un certain nombre de diagnostics à faire, et puis. Voilà, on est en train d'évaluer le coût que ça pourrait représenter. Et puis à l'arrivée, il y aura une discussion commune département, voilà, sur un niveau de prise en charge, sur quelque chose qui va coûter quand même relativement cher. Donc la discussion, elle sera pas...
Ou peut-être que ça soit quelque chose qui serve aussi derrière, qui soit peut-être pas juste esthétique.
Une promenade, quoi. Bon, ouais. On y travaille. Maintenant, c'est un peu prématuré pour avancer et des chiffres et des dates. Mais,
bien sûr.
Bien sûr qu'on y travaille.
Les gens ont peut-être peur que ça soit l'estacade, après, ça soit les piliers qui soient enlevés.
Non, ça,
enlevés.
C'est pas prévu du tout.
Non.
Mais on ne va pas laisser ça comme ça. C'est vrai que c'est pas très joli. Il faut se dire les choses. Hein.
Bah
on va le faire, mais il faut nous laisser le temps, quoi. Parce que c'est des gros projets.
Des gros projets, ça prend du temps.
Qui coûtent très cher.
On revient un peu au centre de l'île. On en a vaguement évoqué tout à l'heure avec... peut-être le futur enlèvement du chapiteau. Au fort de la pierre levée, est-ce que, du coup, il y a peut-être quelque chose qui est prévu à la...
On s'est attelé une mission avec des architectes du patrimoine pour faire un diagnostic complet sur le fort et sur le bois. Voilà, c'est en cours.
Là aussi, ça coûte très, très, très cher.
Ah oui. Ouais. Forcément.
Donc, en fait, on a déposé, si je peux le dire, on a déposé un dossier pour classer le monument. Alors,
Il n'est pas classé.
Il est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Et il faudrait vraiment qu'il soit classé monument historique.
Classé, voilà, la marche
est difficile à prendre, parce que une fois qu'on est classé monument historique, on a beaucoup de subventions.
On a beaucoup de subventions, mais aussi on a des contraintes. On ne peut pas faire ce qu'on veut.
Ah oui, bah oui,
donc,
forcément.
Voilà, c'est
toujours avec les monuments classés. Voilà, il y a toujours forcément.
Mais voilà, il gagnerait à être classé monument historique. Ça permettrait de gérer un certain nombre de choses qui vont coûter cher, de l'étanchéité, etc. Enfin, la remise en état de certaines choses. Il y a les gouttières aujourd'hui, c'est des. Les gouttières en plastique, enfin, il y a un certain nombre de choses à refaire, les ouvertures, etc., etc. Enfin, je vais passer des meilleurs, donc voilà, on va militer pour qu'ils deviennent classés monuments historiques, et pas seulement à l'inventaire supplémentaire. C'est peut-être du détail, mais...
Un autre projet du département, c'est l'ancienne corne de brume sur la pointe, du coup, la pointe du Butte. Il y a eu donc un projet qui était prévu. Est-ce que c'est toujours le cas?
Oui.
De petits musées.
Oui. Enfin, un peu sur, ouais. Oui, oui. Les travaux commenceront à l'automne, normalement, à l'automne 2022 de cette année. Et se termineront normalement au printemps 2023. On espère quand même que ce soit fini à l'été 2023. Donc, tous les travaux seront pris en charge par le département. Nous, la commune, en fait, on aura à payer les panneaux de signalisation au niveau de... Parce qu'en fait, ce projet, l'essence même de ce projet, c'est un centre d'interprétation des naufrages et de la signalétique maritime. Donc,
ça va avec la table d'orientation qui avait été faite à côté.
C'est ça.
C'est ça. Et donc, le département a missionné les architectes du patrimoine, on sait même qu'ils travaillent sur la citadelle, puis sur un projet que j'évoquerai après. On a eu un comité de pilotage, de décembre.
Il n'y a pas si longtemps.
On a pu valider les principes retenus. Donc ça suit son cours.
Très bien, on va passer au volet culture maintenant assez rapidement, puisqu'on va simplement évoquer le centre culturel du Petit Chiron. Pour ceux qui passent un peu dans le coin, on voit que ça a beaucoup avancé. Ouais. Est-ce qu'on a une date d'ouverture déjà ou pas du tout encore ?
Initialement, c'était prévu à l'automne. Je ne me fais pas d'illusions. Ce sera fin d'année, début d'année prochaine. Alors, je ne sais pas qu'on présentera les vœux l'année prochaine. Peut-être que tu me diras. Mais les gens disent quand est-ce que ça va être fini.
Il y a du retard.
Non, pour le moment, ça suit son cours. On tient le.
On est même en avance d'une semaine. J'ai écrit ça ce matin.
Donc, le planning est tenu. Donc, c'est plutôt pas mal.
Donc, on rappelle, le centre culturel, ça va regrouper un peu les archives, le patrimoine, quelques petites salles un peu d'exposition.
C'est ça.
La bibliothèque aussi, bien sûr.
La bibliothèque,
médiathèque. Enfin, voilà, c'est pas qu'une médiathèque, c'est tout un centre culturel.
Ouais.
C'est ça.
Voilà.
C'est une salle numérique, le Fab Lab. Donc, le Fab Lab, c'est une sorte de laboratoire, peut-être que
numérique, un peu les nouveaux outils du numérique.
Mais c'est ça, pour permettre d'utiliser de l'impression 3D, un peu de robotique, usage un peu de tout, soit des professionnels, soit des particuliers, des écoles, etc.
Faire du codage, du JavaScript, PHP, tout ça, il y en a qui connaissent.
Oui. Mais aussi. Il y a les trainbots aussi qui vont être
à
côté, qui font partie. Mais là aussi, c'est de la structuration de services. On parlait du centre technique municipal, par les mairies, pôle culture. Là aussi, c'est important parce que le service patrimoine, aujourd'hui, est dans le fin fond du pôle économique. C'est juste pas sa place. Et puis, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire ou qu'on ne peut pas mettre... qu'on ne peut pas restituer au public. Donc, ça a redonné de la
cohérence. Les archives aussi, par exemple.
Aussi, tout à fait, ouais. Aujourd'hui, elles ne sont pas...
elles ne sont pas consultables,
On peut,
mais... Difficilement.
Mais c'est compliqué. Là, ça va être plus simple. Et puis, je pense qu'il y a des choses intéressantes que le public pourra aller voir.
Oui. Et puis, les trainbots sont aussi beaucoup consommateurs de tout ce qui est numérique, bibliothèque, tout ça. Et donc, c'est important aussi de mettre tout ça ensemble.
Ouais, voilà. C'est ça, ouais.
C'est pas qu'un regroupement de services, si je peux me permettre. C'est aussi tout ce qui est accès à la culture. C'est aussi faire sortir les jeunes de leur isolement. Parce que ici, on peut aussi se sentir enfermé, même si en général, les jeunes se sentent bien. C'est vrai qu'à l'adolescence, on a du mal à se... Par exemple, quand on va sur le continent, il y en a certains... c'est trop géant pour eux. Donc, en fait, s'habituer dès l'enfance à avoir l'accès sur une connexion vers le continent, ça leur permettra d'être plus armés pour se confronter, entre guillemets, au continent. Et puis aussi, c'est pour le bien-être des îlets, tout simplement, ce projet. C'est pour que les îlets puissent se retrouver, parce que c'est un lieu social. Il y aura des regroupements entre les personnes âgées qui sont juste à côté. Il y aura des rencontres inopinées.
Et le cinéma qui est juste à côté aussi.
Entre les trainbots, les EHPAD à côté, enfin, je veux dire, ça sera un lieu de vie.
Ouais.
Et nous, ce qu'on veut, c'est ça, c'est que les gens vivent bien sur notre île.
Oui, et puis je ne sais plus combien il y a de descriptions à la bibliothèque. On a un beau millier.
800, plus de 800.
Ouais, c'est ça, oui. J'allais dire un millier, mais c'est un peu l'idée. Donc
là aussi, la bibliothèque a pour but un peu d'être un peu plus grande aussi, un peu plus fournie, parce que là, c'est un peu plus petit, et puis ça permettra de libérer la salle à l'école du Ponant aussi.
C'est ça.
C'est ça, aussi. Et puis une rencontre entre les résidents qui ne résident pas l'année, ceux qui sont aussi là à l'année. Donc tout ça, c'est un melting pot, quoi. C'est quelque chose de... qui sera vivant. C'est maintenir l'île vivante toute l'année, c'est super important. C'est notre projet politique. Hein. Ouais. Donc ce projet-là, c'est vraiment un projet structurant.
Oui, vas-y.
Non. Du coup, on a profité pour enfouir les lignes électriques là, dans la rue du Petit Chiron, puis la rue Jean-Simon Chassin. Enfin, au moins en partie, on arrivera à finir. On a de la... avant de refaire la chaussée, on va avoir aussi de la canalisation d'eau à refaire. Et puis, donc c'est pas rien, hein, c'est les à côté.
Bah oui, on peut pas juste faire un bâtiment, forcément, faut
non.
que...
Et puis, ouais. on travaille aussi au réaménagement du parking de l'église de Pont-Joinville.
Ouais.
Bon, là aussi, c'est un dossier, on avance hein, sur la question, et puis c'est important de pouvoir le formaliser, parce que là, c'est un peu tel que. Hein. donc le projet avance, et parallèlement, on a aussi la restauration de l'église du port, hein, parce qu'aujourd'hui, il pleut dans l'église, hein, donc elle a besoin de toiture, de refaire la toiture, la grande nef. Alors, il n'y a pas que ça, il y a des carreaux sols à refaire, il y a de l'électricité à refaire, il y a un certain nombre de choses, des peintures aussi en intérieur à refaire. Et on a pris un peu de retard parce que le département a voté un programme pour cofinancer les restaurations d'églises. Donc là, on s'inscrit là-dedans, mais pour ce faire, il faut faire un diagnostic complet patrimonial de l'église. Donc c'est le même cabinet alors que j'évoquais tout à l'heure.
Ah oui, d'accord, pour le fort et le...
Il fait l'église, ils ont pris du retard, j'aurais aimé que ça aille un peu plus vite. Néanmoins, on va avoir là, d'ici quelques jours, enfin le rendu. Ceci dit, on a fait d'ores et déjà des demandes de subventions auprès de la préfecture. On va pouvoir les déclencher au niveau du département de la région et on va pouvoir réaliser déjà la toiture cette année. Et donc voilà. Et après, avec l'ensemble des choses qu'il y aura à faire sur l'église, je pense qu'on aura pour au moins deux ans de différents travaux. Et à cette échéance-là, le parking sera fait, le pôle culturel sera fait, voilà, on aura remis un peu à neuf le quartier.
On parlait donc du centre culturel, la jeunesse, tout ça, ça nous amène au sport, avec notamment le complexe sportif. Là aussi, il y a des projets de rénovation, d'agrandissement peut-être.
Bah, déjà en 2021, on avait rénové le sol d'une des deux salles de sport. On a mis en place aussi le nouveau skatepark, qui a beaucoup de succès. On a supprimé les deux terrains de tennis pour y installer un terrain de multisport et le bassin de mobile qui vient s'installer de mai à septembre.
Il revient cette année ?
Oui, ouais. Il revient cette année. Il y a eu tellement de succès et puis voilà, c'est vraiment indispensable pour nos enfants pour apprendre à nager. Donc on renouvelle l'opération. Et donc cette année, en 2022, il y a deux études en cours, enfin parmi d'autres, hein, il y a l'étude d'un pump track. Alors qu'est-ce que c'est un pump track ? C'est un cheminement.
Je ne suis pas assez sportif pour savoir.
C'est un cheminement, il y en a un à la Barre de Mont. Si vous passez devant la mairie, vous le passez devant, en fait. Bon, celui-là, il est grand. Hein. Mais en fait, c'est un cheminement pour les petits, les moins de 6 ans et plus. Hein, mais c'est accessible pour les moins de 6 ans pour qu'ils puissent faire du vélo, du roller, de la trottinette, enfin tout ce qui roule, sans forcer. En fait, il y a des bosses et avec la traction, enfin, quand on plie les genoux, en fait, on avance grâce à ce cheminement comme ça tout autour d'un terrain. Et on va essayer de faire ça, on attend les devis, hein, bien sûr, pour désengorger un petit peu le skate park, parce qu'en fait, là, on se retrouve avec des grands de plus de 16 ans et des tout petits. Oui. Donc, bon, il y a un petit peu... Pour l'instant, il n'y a pas d'accident, tout le monde se respecte et tout. Mais bon, on voit bien que, voilà, il y a un petit peu trop de monde. On est victime un petit peu de notre succès.
Tant mieux.
Donc, ça, c'est le premier projet. Et puis, le deuxième projet qu'on avait aussi dans notre programme politique, c'est aussi le mur d'escalade. Donc là aussi, on attend les devis, il y a des entreprises qui doivent venir. Bon, tout ça, ça se prépare, hein. Si ça se trouve, ça sera l'année prochaine, sûrement d'ailleurs. Mais voilà, c'est des études en cours.
Pour pouvoir s'ouvrir à plus de disciplines de sport. Justement, il y a un club de rugby qui s'est monté.
Oui.
Est-ce qu'il y a une réflexion déjà sur mettre des poteaux de rugby sur un stade de foot
ou... Pour l'instant, parce qu'en fait, ils font du rugby à 5, puis apparemment, leur demande n'est pas dans ce sens-là. Pour l'instant. Donc, on attend les demandes. Voilà, on ne va pas aller plus vite que la musique. On attendait aussi que cette association puisse avoir
se développer un peu.
Voilà,
aussi,
ouais. Avoir un rythme de croisière. Parce que, bon, des fois, hop, c'est tout feu, tout flamme.
C'est la nouveauté.
Et puis, en fait, après, 2 ans après, tout s'écroule. Donc, on ne va pas faire non plus des investissements trop tôt. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. Ils sont contents. Ils ont des licenciés. Donc,
ils ont gagné des matchs aussi.
Oui,
on peut le dire.
Donc, c'est bien.
Donc ça, c'est pour les sports sur terre, j'ai envie de dire. Et pour les sports sur la mer, les sports nautiques, il y avait un projet d'aménagement de l'ancien laboratoire du Le BIM à Kerchalon.
Oui, alors le BIM, en fait, il est en cours d'étude. Enfin, l'architecte est en train de travailler dessus parce qu'en fait, il y a plusieurs utilités. Il y a un logement dedans, il y a un espace de stockage, il y a des vestiaires et puis il y a une salle de réunion avec un bureau. Donc là, on est en train de travailler avec les associations pour voir quels sont leurs besoins aussi, de combien de stockage ils ont besoin, les vestiaires, etc. Donc tout ça, ça se met en place. La construction, enfin, je peux pas trop dire pour la livraison, les travaux, tout ça, c'est vraiment dans un second temps. Donc là, c'est vraiment en phase d'étude. Mais on consulte les associations.
Voilà, l'important, c'est de dire un peu où ça en est, justement.
Oui.
Aussi. on va passer au transport aussi. Là, il y a un gros projet sur cet aménagement des listations, puisqu'il y a eu une enquête publique il y a 4 ans déjà, ouais. Sur cette listation. Qu'est-ce qui va advenir de toute cette partie-là?
Elle va se...
S'implanter plus...
Ouais, en prenant beaucoup moins de place, donc sur le côté nord-ouest, hein, non, déjà atterri là, mais le cône d'envol est davantage sur la mer, donc on va pouvoir récupérer toute une partie du parking.
Une partie qui est côté Brise-Lame un peu.
Côté Brise-Lame, ouais, là où il y a plein de trous, là, donc ça
va boucher les trous, alors.
Voilà, des travaux importants. Refaire bâtiment d'accueil aussi, forcément. Donc là aussi, on se fait accompagner par un bureau d'études sur l'aménagement global du parking, parce que les espaces libérés, comment on fait, etc. C'est bien de mettre aussi un peu de verdure dans tout ça, ce serait pas mal. Ouais, et puis on a les tris sélectifs qui est là-bas, donc on envisage de mettre en conteneur enterré, pareil sur le parking de Neptune. Voilà, on est en train de réfléchir à l'aménagement de cet ensemble.
On va passer donc, avant de passer à l'immobilier, tout le côté social, on va passer à l'environnement avec la recyclerie,
oui.
Qui est sur la zone artisanale, donc à côté de la déchetterie.
Oui.
Qui est presque terminé,
c'est ça.
Je crois. Donc là, c'est pareil, ça va ouvrir quand?
Normalement, vers le 15 février pour le dépôt des particuliers, et puis 15 jours ou 3 semaines après pour la vente. Ça dépend de comment on arrive à collecter des objets, mais voilà, c'est incessamment sous peu.
D'accord, ouais, le principe, vite fait, c'est ça, c'est justement de donner des objets qui fonctionnent peut-être plus forcément.
Si c'est mieux.
Ouais,
mais ouais. Plutôt qu'ils finissent dans la benne de tout venant, voilà, pour qu'ils soient remis dans le circuit. Une assiette, une vieille télé, mais qui marche toujours, un frigo qui marche toujours.
C'est des appareils qui marchent toujours.
Oui,
oui,
ah
ouais,
bah oui.
Ouais.
C'est pas un atelier de réparation, quoi.
Non. Bon, on ne sera pas sans remettre une vis sur une armoire, mais...
Oui, voilà. Voilà. Changer le câble, ouais. Si...
Bon, c'est un peu la recyclerie qu'on trouve sur le continent CS.
Là, il faut dire qu'il y a eu une mise en place de chantier d'insertion via cette recyclerie. C'est-à-dire qu'il y a quatre personnes, c'est chantier collectif, chantier d'insertion, c'est pareil. Donc, en fait, il y aura quatre personnes qui seront en chantier et voilà, qui pourront travailler à la recyclerie. En plus des six places qui sont aux espaces verts actuellement. Donc, il y aura forcément un encadrant technique, c'est payé par le département, voilà, il y a tout un projet social derrière aussi, hein, c'est pas qu'un bâtiment.
Très bien. À la station d'apuration, il y avait un projet aussi de gazéifieur.
Oui.
Où en est donc ce projet ? Est-ce que c'est toujours un projet ?
Oui,
ou...
c'est toujours en cours. l'idée, pour rappel, en fait, c'est de gazéifier la partie ligneuse des déchets verts. Donc, voilà, on les chauffe, on ne les brûle pas, on les chauffe et se transforme en gaz. Et ce gaz est un carburant pour un moteur. L'idée, c'est d'en récupérer la chaleur pour sécher les boues au fil de l'eau. Parce que aujourd'hui, le séchage des boues ne fonctionne pas très bien. Dès qu'on arrive à la belle saison, il y a quand même des odeurs dans le quartier. C'est franchement insupportable pour les riverains. Et ce moteur va fournir aussi 50% du besoin électrique de la station. Alors vous imaginez bien, c'est un chantier qui coûte. Hein, donc on est à la recherche de subventions, on a commencé à en trouver. Bon, l'ADEME fait un peu la sourde oreille, on est en train de les tarabusquer, il faut qu'ils nous accompagnent là-dessus, et puis l'Agence de l'eau. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir entamer dans l'année le démarrage des travaux, j'espère. Mais il faut qu'on arrive à bien boucler notre plan de financement, c'est assez important.
Pour rester dans l'environnement, un nouveau projet qui est sorti également, c'est le projet de ferme municipale.
Oui. Là aussi, c'était un engagement qu'on avait pris dans notre programme politique pour alimenter notre restauration collective, donc que ce soit dans les EHPAD ou dans la restauration scolaire. Finalement, on a assez peu recours aux maraîchers locaux parce qu'ils ils sont pas formatés pour produire ce qu'on demande dans les EHPAD. Bon, c'est comme ça, donc voilà, on va le faire en régie. Avec l'idée, vous savez, on est très contraint sur le coût des repas, que ce soit en restauration scolaire ou dans les EHPAD, et voilà, pouvoir apporter en partie de l'alimentation de meilleure qualité à moindre coût aux EHPAD ou à nos enfants, c'est un choix de société. Alors, on va permettre que la tomate, je prends un exemple, hein, c'est... la tomate qui était à 1 euro dans l'assiette, si elle n'est plus qu'à 50 centimes, j'exagère en disant ça, mais c'est pour que chacun comprenne, la cuisse de poulet qui va avec, on va pouvoir mettre un peu plus et donc une meilleure qualité.
De la viande, ouais.
Donc ça va
les autres produits importés pourront être de meilleure qualité.
Ouais, alors on peut se dire, oui, on aura un déficit. Alors, la ferme vendra quand même ses produits aux différentes restaurations collectives, mais pas avec une vision de rentabilité à tout craint. Parce que faire mieux manger nos aînés et faire mieux manger nos enfants, c'est un choix de société qu'on porte. C'est clairement... Vous savez, quand on a le multi-accueil, maintenant on redit crèche, mais la crèche, on vient couvrir aussi... le budget, avec le budget principal via une subvention au CCS, parce que là aussi, c'était un choix de société à l'époque, et puis qu'on porte toujours, de pouvoir garder les enfants pour améliorer les conditions d'accès au travail des parents, notamment des femmes. C'était un choix de société.
Mieux manger. C'est pas obligatoire, une crèche.
Non, c'est pas obligatoire. C'est pour ça que je dis c'est un choix de société. Mieux manger dans la restauration scolaire ou dans la restauration au niveau des EHPAD, c'est un choix de société qu'on porte. Et donc, on va faire cette ferme. On a des terrains autour de la, de la STEP, hein, de la station d'épuration. C'est pas, c'est étanche. Hein, y a pas de,
ah, ça fait de l'engrais.
Ouais, non, c'est parfaitement étanche. Hein. Mais c'était une zone tampon avec les habitations, donc un peu de terrain libre où on peut aller voilà, implanter. On a commencé à ramener un peu de terre végétale dessus. Il y en avait déjà, mais et puis on a un recrutement qui est en cours. Voilà, il y aura des équipements, serres, etc. Enfin de...
Donc il y a un recrutement de maraîchers, donc si quelqu'un... Oui. Voilà.
Mais, il y a d'autres villes hein, qui entament la même démarche. Et, je pense que c'est important. Moi, j'étais allé voir celle de Vannes. Donc c'était intéressant de voir...
En Vannes, c'est peut-être à plus grande échelle, du coup.
Ouais, oui, et puis de voir les choix de production qui sont opérés par le maraîcher en lien avec les cuisiniers, et puis de pouvoir éclairer les enfants sur d'autres légumes, etc. etc. Donc, il y a des valeurs pédagogiques aussi derrière.
Ah oui, bien sûr.
C'est important de se réapproprier, voilà, la production de légumes, comment ça se passe. Et je pense qu'on a tous à y gagner. Encore une fois, choix de société, c'est pour y gagner tous collectivement, en termes de santé publique avant tout. Quoi.
Dernier point sur l'environnement, un peu les espaces naturels. Il y a un projet aussi au Marais de la Guerche.
Oui, Feuteuil, il y en a...
Plusieurs ?
Deux, oui, plusieurs. Il y en a un de réhabilitation de l'ensemble du Marais, notamment un observatoire à oiseaux. Il y a des abords qu'il faut améliorer aussi. Et puis un autre qui est plutôt sur endiguer les espèces invasives, notamment le baccaris qui est très présent dans le Marais. Donc il faut arracher, etc. Voilà, donc c'est deux projets un peu complémentaires. Sur les espaces naturels, on a aussi le projet du port de la Meule. Aussi,
ah oui, et, ouais.
Oui, l'avant du port de la Meule, enfin l'arrivée par la route hein, du port de la Meule. Oh, voilà, ça fait déjà quelques années qu'on y travaille. Donc,
avec le petit parking, tout ça.
Ouais, c'est ouais. Ça. Donc ça tend à se finaliser. Bon, après, ça restera encore long parce que ça nécessitera un permis d'aménager et puis une instruction par les services de l'État. On sait que ça prend 8 mois. Enfin, donc, c'est encore un peu long, mais on arrive à peu près, on a stabilisé à peu près le plan, j'ai envie de dire, donc savoir un peu où on va, quoi.
On reste au port de la Meule, on n'a toujours pas de nouvelles de la Gargourite.
Non.
Juste comme ça, en passant, non.
Non.
Malheureusement.
Non.
Avant de terminer avec les finances et le social, on va passer à un point assez global sur un peu l'immobilier à Lille-Dieu.
Oui, il y a plusieurs choses. Plus que d'immobilier, je préfère parler de logement.
Oui, de logement, oui.
Ouais,
surtout,
logement, on sait que le prix de l'immobilier étant très cher, voilà, ça a des impacts majeurs sur le logement. Nous pour y répondre, il y a plusieurs niveaux. Hein. Et un premier niveau, voilà, c'est de pouvoir produire des lotissements. Ce qu'on fait, il y a celui de la Tonnelle et celui
La Chironnière.
La Chironnière donc,
de Saint-Sauveur aussi, un passe des Rieux.
Un passe des Rieux, là, c'est du locatif. Ouais, ouais. Ça, c'est en cours aussi. Tonnelle et Chironnière, les permis d'aménager sont en train d'être déposés ou presque. Hein, donc,
ça prend du temps, ça aussi.
Ouais. Mais bon, on arrive un peu au bout, donc c'est plutôt pas mal. Et puis, on travaille aussi avec Vendée Habitat pour compléter certaines dents creuses qu'on avait en logement. Voilà, on a demandé... préfet de région, de pouvoir être classé aussi, je change de sujet, mais c'est un peu lié, classé, enfin, on resterait en B2, mais de pouvoir bénéficier des dispositifs Pinel sur le locatif à Lille-Dieu. Pour rappel, voilà, vous voulez investir, vous pouvez créer le locatif, vous avez des réductions d'impôts sur le déficit foncier, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails.
Oui.
Mais en vous engageant à louer pour 9 ans, 12 ans, à des prix...
bloqués.
Ouais,
avec
c'est ça, en fait.
Le loyer est bloqué. Donc ça permet quand même... Enfin, les bénéficiaires, il y a un vrai intérêt pour ça, mais aussi au niveau des propriétaires, puisque les propriétaires défiscalisent leur investissement. Donc avant, à Lille-Dieu, ce n'était pas possible, parce qu'on n'était pas dans la zone qui était définie par le préfet. Donc on a fait une lettre au préfet pour que Lille-Dieu soit dans cette zone où on puisse faire du Pinel. Enfin, maintenant, il n'y a plus de Pinel, ça va être peut-être un autre qui va sortir, mais ça sera dans le même acabit.
Après, on continue, nous, de faire des acquisitions foncières. On en fait tous les ans, régulièrement. Donc, on a d'autres projets en cours.
Pour réfléchir à d'autres, ouais, peut-être lotissements futurs.
De les
futurs,
anticiper, ouais. Parce qu'on sait que ça prend énormément de temps. Donc, voilà, si on ne veut pas de trou d'air, faut travailler sur le prochain alors qu'on n'a pas fini le premier, quoi, j'ai envie de dire. Mais c'est un peu ça, la technique. Et puis, parallèlement, on a la plateforme de rénovation de l'habitat, ça aussi c'est important. Voilà, on va arriver en fin de dispositif, donc on va voir comment on va pouvoir le proroger. Voilà, un groupe de travail sur ces questions de logement qui ne sont pas simples à être traitées. Alors, on avait fait la semaine du logement là, au mois de novembre pour expliquer un peu tout ce qui a été fait en la matière, parce que tout le monde n'a pas forcément conscience, entre le constat à l'instant T, merde, on n'arrive plus à se loger, et de comprendre ce qui est fait, même si on ne peut pas apporter...
D'où ça vient et où on peut aller.
Ouais, je pense que les échanges ont été très productifs, donc on va continuer de travailler dans cette voie-là, parce que voilà, toutes les idées ne sont pas dans la même tête, et c'est important que tout le monde participe à ce genre de débat.
Et c'est vrai que la semaine du logement a montré aussi qu'on n'était pas tout seul, qu'on travaillait avec des partenaires, pas que Vendée Habitat, plein de partenaires différents.
Et plein d'associations.
Et c'est pour ça aussi que ça nous prend beaucoup, beaucoup de temps. C'est très énergivore, très chronophage, le logement, l'urbanisme, parce qu'on n'arrête pas de discuter, enfin de négocier, pour avoir des renseignements, pour pas faire n'importe quoi, parce que c'est du long terme. Et puis on intervient sur le logement, c'est-à-dire quelque chose d'intime au niveau des gens. Donc il faut pas faire n'importe quoi. Donc on s'entoure de professionnels, bien sûr.
Très bien. Alors l'avant-dernier grand thème de cette émission, c'est aussi tout le côté social, solidarité, avec, on parlait de regroupement donc des équipes techniques, regroupement culturel, regroupement de la mairie, et il y a un autre grand regroupement qui va se faire aussi, c'est celui de la solidarité, un grand pôle solidarité justement, qui va regrouper pas mal de services. Services et autres associations aussi.
Là aussi, on est parti d'un constat où on trimballe les services à droite à gauche, le CCS a dû changer de place 3 fois en 10 ans. On a la maison des solidarités et de la famille du département qui est dans un bâtiment communal, mais qui arrive au bout, hein, ce bâtiment. Il faudrait refaire la toiture, les ouvertures, l'électricité, le carrelage, j'en passe des meilleurs.
Surtout qu'il y a une voie qui va passer dessus, normalement.
Non, mais ça a permis de... on a aussi la crèche, parce qu'il est dans un bâtiment qui est plus adapté, en fait. Puis il y a quelques années, on avait voulu lui mettre un coup de rafraîchissement, une petite extension de 20 mètres carrés. On faisait électricité, l'appareil... électricité, un peu de carrelage, un peu de truc, puis boum, 700 000 euros, quoi. Donc, on s'est dit, attends, on va peut-être faire différemment. Donc, on a cherché un endroit, puis finalement, on s'est dit, mais on regroupe tout, on refait en neuf, un vrai outil de travail, parce que c'est important aussi, par exemple, sur la crèche, la sonorité, enfin, on avait eu des problèmes qu'on avait fait la salle à manger ou qui était très bruyante, donc l'appareil
même les normes ont changé, donc c'est vrai que pour les dortoirs par exemple, pour les petits, avant il y avait les berceaux, c'était juste ils étaient juste à côté, quoi, les uns des autres, et maintenant il faut que ce soit espacé, il y a les normes,
des distanciations sociales,
peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas les normes ont changé, donc ça doit être plus spacieux, et pour les équipes aussi ça va être vraiment un confort, hein. Enfin, je pense que là ils vont vraiment apprécier, parce que là ils sont dans des locaux inadaptés, il faut bien le dire. Les outils sont pas adaptés à leur travail.
Mais c'est peut-être des services qui travaillent aussi peut-être un peu souvent ensemble avec le CCS, la DMR, les assistantes maternelles.
Exactement. Donc On va ramener le RAM, réseau de l'assistante maternelle, il y aura la crèche, il y aura le CCAS et la MDSF. Alors que,
ouais, donc, la maison départementale de la solidarité de la famille, donc
qui sociale, la PMI.
La PMI, ça. Donc la protection maternelle et infantile, donc c'est ceux qui, les puéricultrices qui viennent voir les bébés. Ouais. Voilà, c'est un service départemental, donc eux aussi seront dans ce même bâtiment. Le service à domicile, donc la DMR et le SIAD, donc vraiment tous ces services-là vont pouvoir travailler ensemble. Des fois, enfin souvent, ils ont les mêmes gens en face. Donc bon,
oui, pour les publics aussi, ce sera plus simple d'aller d'un guichet à l'autre.
D'un guichet à l'autre. Donc ça c'est super. Et puis aussi, là il y a un nouveau projet au niveau du département. Ça s'appelle la Maison Vendée Autonomie, qui permettra à la MDPH, donc la Maison Départementale des Personnes Handicapées, d'avoir un guichet, un accueil dans chaque MDSF, donc chez nous aussi. Là, c'est un projet qui va voir le jour normalement, soit en 2022, mais normalement c'est 2022, voire 2023 pour nous, mais d'avoir un accueil chez nous aussi, au niveau de la MDPH. Et ça, c'est très important pour toutes les personnes handicapées. Ils n'auront plus à aller, même si, bon, il y a quand même le téléphone, hein, ils répondent bien sûr au téléphone, ils n'auront plus à aller à La Roche-sur-Yon pour avoir un accueil.
Ce pôle solidarité, il est prévu pour quand, à peu près?
Alors,
Et où
où c'est en face de la Prépotée, presque en face le collège des Sicardières, la rue Clémenceau, hein, c'est un terrain qui a été défriché. Donc, on avait des opérations foncières à mener d'abord. Donc, il va être situé ici.
Pour situer, c'est juste là où il y a eu un trottoir qui a été fait, une sorte d'arrêt minute. Ouais. Parce qu'on ne le voit pas, ce terrain, c'est vrai, ouais. On passe devant, on ne voit rien parce que c'est tout en friche. Ouais. Mais en fait, c'est là où il y a le trottoir qui a été refait.
Donc, on a fait le jury de concours, on a retenu les architectes. Là, ils travaillent pour faire ce qu'on appelle l'avant-projet détaillé, hein, donc qui nécessitera des validations. On prévoit pour une livraison fin 2023, dans 2 ans. Donc, ça va venir vite. Après, en termes de financement, pour faire assez court, parce que notre émission
oui.
dure.
pour faire, on est presque à la fin.
Assez court. Ça va être un peu au-delà de 3 millions. Il y a la moitié qui sera financée par soit des cessions foncières. Par exemple, la crèche actuelle, bah, on la vendra. Ce sera porté par le CCS. Donc, il y a un certain nombre de patrimoines qui vont pouvoir être cédés. Et on aura un certain nombre de subventions. Et à l'arrivée, voilà, on se disait à peu près 1,5 million d'emprunt sur 30 ans, c'est à peu près 50 000 euros par an, sachant qu'il y aura un peu de loyer, notamment via la MDSF.
Voilà, sur un budget de 3,7
millions. Et à l'arrivée,
donc on aura 1,5 million
euros par mois.
Voilà.
C'est où consigner.
Pour terminer ce volet social santé, le regroupement des EHPAD.
Oui.
Ça en est où ? Là aussi, ça fait un petit moment qu'on
oui,
évoque le sujet.
C'est long aussi.
Oui.
Ça nous agace
c'est
tous.
Trop long.
Ouais, c'est trop long. Et puis, comme c'est long, il y a des dispositions qui changent et donc il faut rechanger.
Ah oui, il y a des normes qui changent tous les ans aussi.
Donc, bref, le programme est arrêté. On devait avoir une présentation en décembre qui n'a pas pu se faire. Donc, elle va avoir lieu
fin février.
Cette présentation donc, qui nécessitera d'être validée par le conseil d'administration du CCAS, validée par le département aussi. Et si c'est parti, ça va pouvoir démarrer. Donc c'était long, mais faut savoir, enfin, moi, pour être dans le conseil d'administration de Vendée Habitat, c'est le projet le plus complexe qu'ils aient eu à faire ces 20 dernières années.
Ouais. Ah oui, quand même.
Ouais, c'est pas neutre, ouais, parce que c'est une extension dans un bâtiment occupé, donc c'est pas si simple. Ceci explique en partie cela en termes de durée, mais c'est de loin le projet le plus complexe et techniquement, hein, mais aussi financièrement. Donc,
oui, parce que ils vont, pour faire le déroulement en 2 minutes, ils vont d'abord construire, si j'ai bien compris,
ouais.
Ensuite mettre les résidents du chêne vert dans ce nouveau bâtiment,
ouais.
Refaire les chênes verts, remettre au nord les chênes verts, et ensuite mettre les résidents de Calypso dans ce nouveau bâtiment. Donc, vous voyez, les...
oui, bah oui,
c'est... Voilà, ouais. ça un peu de jeu de puzzle, ouais. Enfin, de chaise musicale. Mmh. Donc, ça va être super long aussi.
Mais bon, ça y est, on arrive au bout du programme. J'ai envie de dire ouf, parce que voilà, alors ça avait nécessité des validations déjà en amont sur le programme d'investissement budgétaire des EHPAD, discussion avec le département, discussion avec l'ARS, sur le nombre de places, sur un certain nombre de choses. Donc, ça s'est fait maintenant, cette validation de programme, il faudra refaire quand même la tournée des popotes. Et si c'est bon, on va pouvoir lancer les opérations.
Sur la santé, vite fait, un nouveau dentiste, oui. C'est prévu ou...
Oui, ouais. C'est prévu.
Oui.
On avait évoqué le sujet rapidemment, ouais.
Ça s'est mis un peu de temps. En l'occurrence, une dentiste salariée, alors elle ne sera pas à plein temps, mais qui sera salariée du centre de santé. Voilà, on va pouvoir aménager les locaux parce que ça va être là où sont actuellement les kinés.
D'accord.
Ouais, donc nous on va louer les locaux pour. Qu'elle puisse s'installer et elle commencera courant avril.
Pour terminer avec le dernier point donc, de cette émission, vous vouliez un peu parler des finances un peu
oui,
en général.
Je ne vais pas forcément être trop long parce que je n'ai pas quitus pour tout à fait en parler dans le sens.
On ne va pas rentrer dans les détails, c'est juste pour faire voilà,
l'exercice
un état global.
Budgétaire n'est pas clôturé.
Oui, en plus.
Et tant que le chiffre n'est pas sorti et qu'il n'est pas validé par le conseil municipal, c'est difficile pour moi d'en parler. Mais bon, on a un exercice qui est un peu similaire à celui qu'on avait fait l'année précédente, à savoir avec... Il y a des recettes qu'on n'a pas qui sont liées au Covid, on a eu un peu de dépenses qu'on n'avait pas qui sont elles aussi liées au Covid. Ceci dit, on garde nos marges de manœuvre et puis avec une durée de... calcul de désendettement par rapport à la capacité d'autofinancement brut, si on consacrait l'intégralité de cette CAF au remboursement de la dette, on serait à 4 ans, mais bon, sous toute réserve, hein, parce qu'il faut avoir les chiffres définitifs, donc voilà, une dette de la commune qui est largement portée, il n'y a pas de soucis particuliers de ce côté-là. Maintenant, on sait que c'était un exercice budgétaire compliqué parce qu'il y a beaucoup de bâtiments qui sortent en termes d'investissement.
Oui, c'est vrai, ça fait peur aux gens. Là. On a parlé de beaucoup de projets, beaucoup de trucs, et c'est vrai que c'est une question
et
qui revient aussi.
Bien sûr. Alors, en fin d'année, on a fait un emprunt d'1 million d'euros. C'était prévu 1,2 million ou 1,3 million au budget. On est un peu en dessous, c'est-à-dire qu'on emprunte moins vite qu'on ne rembourse la dette aujourd'hui. Donc voilà, on arrive à faire tout ça sans s'endetter davantage. Donc c'est plutôt pas mal. Et ceci dit, et à un moment donné, il faudra quand même aller un peu plus loin, parce que voilà, il y a un certain nombre de projets qu'il faut pouvoir faire, structurer, mais... tout ça
c'est avec tout, avec tout ça, il vous reste quand même des projets
Ben après, il faut trouver les bonnes articulations, parce que je sais que ça avait fait peur à certains. Ah, il y a 12 millions d'euros d'investissement, ouais, avec 1 million d'emprunts. Comment c'est possible? Ben, c'est possible parce qu'on a du report de fonctionnement, parce qu'on a de l'excédent... l'excédent d'investissement capitalisé, on a...
Puis on est les champions de la recherche des subventions, ouais. Aussi. Il y a ça, enfin, je veux dire, ouais. On a des agents
au
taquet.
C'est une grosse partie du boulot
aussi. On a des agents au taquet, on recherche tous les financements possibles et inimaginables. On a un département qui nous soutient aussi, il faut le dire. Donc, on a une ARS aussi pour les projets sentiers qui nous accompagne bien sur beaucoup de sujets. Parce que là, on n'en a pas parlé, mais tout ce qui est centre de vaccination, par exemple, ou voilà, ils financent, oui, chance, quoi. Je veux dire, on n'est pas tout seul.
On n'a pas voulu parler du Covid.
Ouais, ouais. mais c'est vrai qu'on nous aide. On nous aide. C'est vrai qu'on va les chercher.
Il y a des aides, il faut savoir lesquelles, il faut savoir les trouver aussi.
Voilà.
Après, il y a beaucoup de choses qui se font, mais parfois sur des budgets annexes aussi, que ce soit sur l'assainissement, sur le budget ordure ménagère. Par exemple, la recyclerie est portée par le budget ordure ménagère. Donc voilà, après, il faut articuler les choses pour éviter d'avoir un pic d'investissement à un moment donné, puis des creux après. C'est pas toujours évident. Mais bon, entre les projets, puis on l'a dit tout à l'heure, qui ont toujours tendance à glisser un peu dans le temps. Voilà, j'avais dit en conseil municipal l'année dernière, on fait un espèce de grand dérapage contrôlé, mais qui est dans l'ordre des choses. Donc voilà, non, je pense qu'on peut se réjouir d'avoir des finances saines qui permettent de porter les projets structurants. Ça, c'est voilà.
Projet alors, utile et intéressant.
Du fait de la dotation d'insularité depuis 2017, qui n'est pas un cadeau, c'est bien une mise à niveau de la commune de Lille-Dieu, enfin des communes insulaires, par rapport aux communes continentales. Donc voilà, on n'a pas à rougir de ça, loin s'en faut. Mais ça permet à la commune voilà, d'être plus sereine dans ses investissements. Bon, pour ça, il faut continuer d'avoir une certaine rigueur. Alors, je sais que le mot peut faire hurler, mais ce n'est pas une rigueur budgétaire, mais c'est une rigueur de travail dans le fonctionnement de la commune. Où, voilà, on ne dilapide pas l'argent public, on fait attention, les agents font attention. Moi, je tiens à les remercier, c'est eux qui font... tout le quotidien et voilà, tout le monde a envie que ça avance et puis voilà, c'est pour ça que le budget aujourd'hui il se tient bien même si, encore une fois, il faut se creuser la tête hein, c'est pas si évident que ça ça permet d'avoir une commune qui a des finances saines. Enfin, commune avec 4 ans de ratio de désendettement. Il y a plusieurs qui voudraient bien changer leur compte avec les nôtres. Et voilà.
Voilà, on a fait le tour donc de tous ces grands projets qui vont arriver, certains qui sont déjà un peu terminés, un peu sur la bonne voie. Il y a pas mal de choses à dire, c'était un peu long, mais on rappelle que vous étiez là au début pour surtout souhaiter vos voeux à la population aussi. Hein, voilà. Là, on a fait le tour de ce qui va arriver pendant l'année 2022, une année qui commence donc.
Oui, oui, c'était de profiter pour... présenter nos voeux à toute la population, à tout le monde. Voilà, on espère qu'elle vous apportera du bonheur, de la santé surtout. Et puis, vous savez, dans ces moments difficiles en termes de pandémie, voilà, de faire attention, mais prenez soin de vous. Je pense que c'est important. Prenez soin de vos proches. Et puis, continuons d'essayer d'avoir cette solidarité entre les gens à Lille-Dieu. On habite un territoire qui est quand même assez exceptionnel. Hein. Je pense que tout le monde en a parfaitement conscience. Et il est d'autant plus exceptionnel que les gens se respectent, que les gens ont cette solidarité. Et je crois que c'est ça qui fait la marque de Lille-Dieu. C'est ça que nos visiteurs apprécient sur l'île. Donc,
l'accueil des gens de Lille-Dieu.
Ouais, c'est ça. Donc, continuons de cultiver ce petit paradis qui n'est pas seulement des paysages, mais bien la façon de vivre entre les uns et les autres, notre art de vivre à l'île-aise, notre art de recevoir et de vivre ensemble. Moi, je suis fier d'être maire de cette île.
Depuis 14 ans.
Façon de vivre. Ouais.
Fallait pas le dire.
Bientôt 14. Je pense que voilà, on peut être fier de notre territoire, vraiment.
Carole Charbeau.
Oui, je n'ai plus rien à ajouter, hein, sauf bonne année à tous, bien sûr. Merci aux agents. Je voulais vraiment remercier les agents parce que je pense que si on met en œuvre tout ce qu'on a dit là, c'est grâce à eux. Je veux dire, on ne pourrait pas, nous, tout seuls, dans notre petit coin, décider ça et ça s'il n'y avait pas des agents très, très consciencieux qui essayent de vraiment mettre en œuvre notre politique et puis de faire attention aussi aux fonds publics. Et ça, vraiment, je voudrais les remercier. Et il y a aussi tous ceux qui travaillent dans les EHPAD, tous ceux qui travaillent dans la jeunesse. Enfin, bref, tous les services sont concernés. Hein. Il n'y a pas que ceux qui sont dans les bureaux. Il y a aussi tous ceux qui mettent en place notre politique qui est dirigée vers les îlets. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment le bien-être des îlets. Maintenir une île vivante, maintenir 5000 habitants à l'année. Et ça, ça passe non pas que par le bâtiment, c'est-à-dire tout ce qu'on fait là, c'est-à-dire tous les projets immobiliers, ça passe aussi par l'accueil, par le vivre ensemble aussi, comme disait Bruno. Voilà. Donc, bonne année à tous. Profitez bien, soignez-vous bien. Surtout, prenez soin de vous, surtout.
Merci à vous deux. Bonne année encore. Donc, merci. On se retrouve très bientôt pour, malheureusement, d'autres sujets voilà, qu'on a dit qu'on n'évoquerait pas.
Merci
aujourd'hui.
Neptune.
Merci à vous deux. Merci à Viviane Clem également de m'avoir aidé un peu à préparer tous ces thèmes de cette émission. L'émission est à retrouver, bien sûr, en podcast sur neptunefm.com. Bonne journée à tous.